Voilà, bah écoutez, comme vous le savez, nous parcourons Marc, l'évangile de Marc depuis beaucoup de semaines, de mois, presque d'années. Et on est dans le Marc chapitre 16 et nous abordons le thème fabuleux de la résurrection. Donc j'ai intitulé mon message ce matin, les preuves de la résurrection de Jésus-Christ. Alors peut-être avant d'attaquer le détail, laissez-moi vous mettre tout ça en contexte. Comme vous le savez, je me suis converti en 1976 en Inde, et un an après ma conversion, j'étais de retour aux États-Unis et j'ai entendu parler d'un homme qui s'appelle Josh McDowell. Josh McDowell, peut-être que vous le connaissez, est un apologète chrétien. Donc, il cherche à montrer l'authenticité de la foi chrétienne. Et son témoignage personnel m'a interpellé. En tant qu'universitaire, lui n'aimait pas les chrétiens. Mais un jour, une chrétienne lui a lancé le défi d'examiner l'authenticité du christianisme et surtout l'authenticité de la résurrection de Jésus-Christ. Et donc, il a relevé le défi avec but de refuter la résurrection, de dire que c'était une invention humaine. Alors, l'arrière-plan de son premier volume, Evidence That Demands a Verdict, je vais vous montrer le livre, donc il est très vieux, et je crois qu'il y a des nouvelles copies, même, ça existe même en français, ça s'appelle Evidence That Demands a Verdict. Ce livre avait comme objectif de faire du christianisme une farce. Il a fait 2 ans de recherche aux États-Unis, ensuite en Angleterre et en Europe, où il a réuni beaucoup d'éléments. Et Josh McDowell lui-même a dit, il cite, je le cite, « Mes recherches se sont allumées à contre-feu contre moi ». Intellectuellement, Josh McDowell a conclu que Jésus devait être qui il avait prétendu être. Il était convaincu que c'était le Saint-Esprit qui l'avait amené lui-même, donc Josh, à ce point. Et tenez-vous bien, il est devenu chrétien, évangélique, et a passé 13 années supplémentaires à documenter ses recherches dans ce livre. Et d'autres livres, il a beaucoup de livres. Enfin, il y en a un autre, j'aimerais vous montrer, en français, qui s'appelle tout simplement La Résurrection. Des livres excellents qui vont donner beaucoup plus en détail ce que je vais vous dire ce matin. Donc en étudiant le christianisme pour en faire une farce, Josh a réalisé que le centre du débat se situait sur le problème de la résurrection. Lorsqu'on enlève tout ce qui est autour du christianisme, le centre du débat, c'est tout simplement la résurrection. Il a passé des milliers d'heures dans ses recherches, il a conclu une chose. Il a dit, la résurrection est ou bien la plus grande farce de tous les temps, ou bien le plus grand événement historique qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire du monde. Alors ce matin, je vais me servir amplement de ses recherches, de messages par lui que j'ai écoutés, pour vous donner ce message que j'ai intitulé « Les preuves de la résurrection de Jésus-Christ » que j'avais déjà donné même il y a l'époque, il y a bien longtemps en arrière. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus lui-même, lorsqu'il était vivant, a mis beaucoup d'emphase sur la résurrection. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 17, « Et si Christ n'est pas ressuscité des morts, votre foi est vaine. » Jésus lui-même, et Paul plus tard, a enseigné que la résurrection était un point central de ce qui allait se passer dans l'avenir. Jésus avait prédit sa résurrection à plusieurs reprises. Donc, tout revient à la résurrection. Si Christ n'est pas ressuscité, nous dit Paul, eh bien tu peux croire en tout ce que tu veux, mais ta foi est vaine. Elle ne sert à rien. La résurrection de Jésus-Christ et le christianisme tiennent debout et s'écroulent ensemble. Alors, c'est simple. Est-ce que vous voulez réfuter le christianisme? Il n'y a rien de plus simple. Rien de plus simple que de réfuter le christianisme. Tout ce qu'il faut faire, c'est de trouver des explications convaincantes pour l'erreur de la résurrection. Prouver que la résurrection n'a jamais eu lieu, c'est terminé, les gars. Le christianisme s'écroule. Donc, c'est tout simple. C'est ce que Josh a essayé de faire. Il s'est converti. Donc, c'est un défi assez intéressant, je trouve. Dans ses livres, il cite un homme, Dr. Simon Greyleaf. C'était un célèbre professeur de droit à l'université de Harvard aux États-Unis. Il a écrit 3 livres célèbres sur le droit de l'évidence légale. Pendant des années, c'était la base même pour l'évaluation et l'évidence des preuves ou des pièces de conviction qu'on amène dans une cour de justice. Cet homme était un sceptique, c'est-à-dire qu'il se moquait constamment des chrétiens qui se trouvaient dans ses classes. Un jour, les étudiants chrétiens à Harvard étaient fatigués d'entendre ce prof parler ainsi. Donc ils ont lancé un défi au docteur Greenleaf, celui de prendre ces 3 volumes qu'il avait lui-même écrits sur l'évidence légale et de les appliquer à la résurrection. Il a accepté le défi et dans le procédé, il s'est converti à Jésus-Christ, il est devenu chrétien. Il a ensuite écrit un livre important sur le sujet, sa conclusion. Un des érudits légaux les plus grands des États-Unis a dit ceci, je le cite, « La résurrection de Jésus-Christ est l'un des événements historiques les mieux établis selon les lois de l'évidence juridique administrée dans les cours de justice. » Intéressant. Un autre homme, le docteur Frank Morrison, était journaliste. Lui pensait que la vie de Jésus était la vie la plus belle qui a toujours existé. Donc il pensait que c'était un homme très très bien. Mais lorsque on parlait de la résurrection, il était très irrité. Lui, il pensait que quelqu'un était venu dans l'histoire et avait attaché une sorte de mythe à la merveilleuse histoire de la vie de Jésus, le mythe de la résurrection. En fait, il était tellement irrité par ce mythe de la résurrection qu'il a écrit un livre pour réfuter ce mythe de la résurrection. Il était tellement sincère dans ses recherches, il est allé en Palestine pour faire encore plus de recherches, et pendant qu'il était là-bas, lui aussi est devenu chrétien. Il a donné sa vie à Jésus-Christ, et ensuite il a écrit un livre qui s'appelle « Qui a déplacé la pierre ?» Donc, si vous voulez réfuter le christianisme, essayez, vous allez peut-être revenir converti un jour, d'accord ? C'est assez intéressant. Alors voilà, ces hommes, qu'ont-ils découvert en faisant leurs recherches ? Qu'est-ce qui a fait que ces hommes ont radicalement changé leur pensée et leur vie après leurs recherches ? Eh bien, avec le temps qu'on a ce matin, c'est ce que j'aimerais d'essayer de parcourir, vous présenter certaines de ces choses que ces hommes ont vues dans leurs recherches, ont découvert dans leurs recherches, et j'espère que ça vous aidera, si vous êtes chrétien, de savoir qu'il y a vraiment des choses concrètes et vérifiable vis-à-vis de la résurrection, et si vous n'êtes pas chrétien, que vous soyez convaincu comme eux de venir à Christ. Alors, j'aimerais peut-être pour commencer lire le récit biblique. Wow, mais attendez voir. Vous dites quoi ? Le récit biblique ? Non, mais est-ce que je peux faire confiance à la Bible ? Bonne question quand même. Est-ce que je peux vraiment faire confiance à la Bible ? Alors, il faut déjà vite traiter ce problème avant de lire le récit biblique. Le problème de la crédibilité de la Bible, parce que beaucoup de personnes pensent que la Bible n'est pas historiquement crédible. Beaucoup de personnes que ce livre, la Bible, le Nouveau Testament surtout, fut écrit dans le 2e ou 3e siècle après Jésus-Christ, et qu'il y a beaucoup d'inventions dans ce qui est écrit. On ne peut pas lui faire confiance. Alors écoutez bien ce que je vais dire. Savez-vous qu'il y a plus d'évidence pour la fiabilité historique du Nouveau Testament que pour les 10 autres pièces de littérature les plus importantes mises ensemble. C'est exact. Lorsque vous voulez consulter un document historique, et tout ça c'est dans les livres de Josh, d'accord ? Lorsque vous voulez consulter un document historique, quel qu'il soit, la Bible inclus, il faut appliquer dans sa recherche ce qu'on appelle le test bibliographique. Ce test pose la question concernant les manuscrits. Alors un manuscrit, c'est quoi ? Un manuscrit, c'est une copie écrite à la main et non une copie imprimée sur une presse. La presse a été invitée à inventer que dans le 15e siècle. Donc avant le 15e siècle, un manuscrit, c'est tout ce qui est écrit à la main. Donc la question des manuscrits pose cette question : combien de manuscrits écrits à la main avez-vous de ce document ? Donc, par rapport à la Bible, combien de manuscrits écrits à la main avons-nous de la Bible ? Ça, c'est la question qu'il faut poser ici. La règle historique générale est celle-ci. Plus il y a de manuscrits, plus il est facile de reconstituer l'autographe, donc l'original, et de pouvoir observer s'il y a des erreurs ou pas et des divergences. En 1974, les érudits ont pu documenter 14 000 manuscrits du Nouveau Testament uniquement. Et aujourd'hui, avec toutes les nouvelles recherches archéologiques, on peut documenter, tenez-vous, 24 633 manuscrits du Nouveau Testament uniquement. Alors, savez-vous quel est le deuxième livre dans toute l'histoire en ce qui concerne l'autorité des manuscrits ? Le poème L'Iliade par Homère avec 633 manuscrits. Alors, un petit calcul simple nous apprend qu'entre le numéro 1 de l'histoire et le numéro 2 de l'histoire, donc le numéro 1 étant le Nouveau Testament, le numéro 2 de l'histoire, l'Iliade par Homère, il y a une différence, tenez-vous bien, de 24 000 manuscrits. 24 000 manuscrits. De nouveau, toutes ces statistiques se trouvent dans l'ouvrage. Donc, nous pouvons lire le récit biblique avec une confiance extrême. Parce que si on ne peut pas avoir confiance dans la Bible, on ne peut avoir confiance en aucun livre historique, puisque c'est le meilleur documenté de toute l'histoire. Alors avec ça, je vous invite à ne pas aller à Marc ce matin, ça on y reviendra plus tard, enfin dans un autre dimanche. Je vous invite à aller avec moi à Matthieu 27. Matthieu 27, c'est ce qui va nous concerner aujourd'hui. Matthieu 27, et on va lire à partir du verset 57. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Je commence Matthieu 27, 57. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un linceul blanc, le déposa dans un sépulcre neuf qu'il avait fait tailler dans le roc, puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et ils dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur dit, « Vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent au sépulcre, voir le sépulcre, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. » Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. On peut s'arrêter là. Alors, je découpe notre étude en 4 parties toutes simples. Premièrement, les précautions prises à la tombe. Deuxièmement, la résurrection. Troisièmement, les constatations. Et quatrièmement, les implications. Alors, quelles étaient les précautions prises à la tombe ? Numéro 1. L'enterrement a eu lieu selon les coutumes des Juifs. Ça, on l'a vu la semaine dernière. Vous vous rappelez que dans Jean 19, 39 à 40... il y a eu plus de 100 livres d'épices et de myrrhe et d'aloé qui ont été utilisés pour envelopper le corps de Jésus. Vous vous rappelez ? Alors on s'est dit, waouh, ça fait beaucoup d'épices. Mais on avait aussi vu que Gamaliel, le petit-fils du grand érudit Hillel, lorsque lui il est mort, on a utilisé 87 livres d'épices. Donc ça, c'était documenté dans l'histoire. Et l'historien Flavius Joseph nous dit que lorsque Hérode est mort, il y avait tellement d'épices qu'il fallait 500 esclaves pour les porter. Donc ça fait vraiment beaucoup d'épices. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils prenaient ces épices, on avait vu ça la semaine dernière, et ils en faisaient une sorte de pâte gommeuse. Et ensuite, ils prenaient des bandes de toile de lin de 30 cm de large. Ils commençaient à envelopper le corps. Donc, ils commençaient avec les pieds, ils enveloppaient. Et chaque fois qu'ils faisaient, ils faisaient un contour, ils mettaient de la pâte, et ainsi de suite. Et donc, ils faisaient les jambes, ensuite, ils faisaient les doigts, ils faisaient les bras. Ensuite, ils mettaient les bras contre le corps, et on enveloppait le corps. Et tout le corps était ainsi enveloppé, sauf la tête. Ça, le visage était fait par un morceau de tissu différent et séparé. Donc, le grand total, à la fin, c'était environ 120 livres. Première précaution. Deuxième précaution, le corps fut déposé dans un sépulcre neuf qui s'était fait tailler dans un roc. Ça aussi, on l'a vu la semaine dernière. Donc, Joseph d'Arimathée avait fait construire probablement pour lui-même une tombe, un tombeau, dans un roc. Donc, ils ont creusé un trou dans le roc. Et la porte d'entrée avait environ un mètre de hauteur. C'est pour cela que le texte nous dit dans Jean 20, verset 5, que quand les femmes ont vu le tombeau, elles sont allées le dire à Pierre et Jean. Pierre et Jean sont revenus en courant. Il est dit que Jean a dû se baisser pour rentrer dans le tombeau. Et si vous allez au jardin du tombeau aujourd'hui en Israël, vous verrez que vous devez baisser la tête pour rentrer dans le tombeau. Troisième précaution, une grande pierre fut roulée à l'entrée du sépulcre. Alors dans Matthieu 27, 60, il est dit, il déposa dans un sépulcre neuf qui s'était fait tailler dans le roc, puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et s'en alla. Donc, Matthieu nous dit que la pierre était grande. Marc nous dit dans son récit que la pierre était très grande. Dans Marc 16, 4. Et dans le grec, le mot veut dire « super grand ». Lorsque les manuscrits Beza ont été découverts, qui sont certains des manuscrits les plus anciens que nous avons aujourd'hui, ils ont vu des marques entre parenthèses dans le texte lui-même, donc c'était des notes rajoutées par les scribes. Ils disaient que la pierre était tellement grande qu'il fallait 20 hommes pour la bouger. Alors il y a des professeurs, des ingénieurs, à l'université de Georgia Tech aux États-Unis, qui ont fait des recherches. Ils ont passé vraiment des années, je crois, pour faire ces recherches. Apparemment, il y avait 5 pages de calcul. Leur conclusion, la pierre pesait 2 tonnes. 2 tonnes. Quatrième précaution. Une garde fut placée devant le sépulcre. On l'a lu tout à l'heure. Dans Matthieu 27, 62, ils ont mis une garde. Donc les leaders juifs sont allés voir les leaders romains pour leur parler, leur dire, écoutez, il faut une garde. Cet imposteur a dit quand il était vivant encore, nous l'avons tous entendu, après 3 jours, je vais ressusciter. Donc ils ont eu peur, le fait que Jésus avait prédit qu'il a ressuscité. Il se disait, bon, il va certainement pas ressusciter, ça c'est ce qu'il pensait, mais quelqu'un risque d'aller voler le corps et dire qu'il est ressuscité. Donc, mettons une garde pour que personne ne puisse aller voler le corps. Alors, il y a une grande discussion, est-ce que c'était la police du temple ou une garde romaine ? Vous pouvez lire de nouveau toute la discussion dans les livres. Josh, il est convaincu que c'est une garde romaine. Le mot qui est utilisé ici pour garde est le mot grec custodias. Et c'est quoi un custodias? Eh bien, dans le papyrus Oxion Irus, le mot fut utilisé pour décrire une garde romaine. Il y a d'autres sources qui décrivent cette garde, dont un historien romain qui s'appelait Flavius Vigitus Renautus. Drôle de nom. Alors, Flavius Vigitus Renautus était un historien romain qui vivait quelques centaines d'années après Christ, lorsque l'armée romaine commençait à se détériorer dans sa discipline. Il a donc écrit un manuel intitulé « Les instituts militaires des Romains ». Les instituts militaires des Romains. Et il a envoyé cela à l'empereur romain, pour encourager l'empereur à réinstaurer les méthodes de guerre offensive et défensive des Romains qui existaient à l'époque de Christ. Donc ce gars, il a vraiment compris ce qu'était un Romain et un soldat romain à l'époque de Christ. Alors cette source-là et d'autres sources nous montrent qu'un custodias n'était pas une force de deux ou trois hommes. Hein, des fois dans les dessins animés ou des petites histoires d'enfants, on voit la garde devant le tombe, il y a un gars avec sa lance. Non, ce n'est pas ça du tout. Non, un custodias était une unité de sécurité composée de 16 hommes. Chaque homme était entraîné à protéger 2 mètres carrés de terrain autour de lui. Il est dit que 16 hommes, avec 4 de chaque côté, pouvaient protéger 36 mètres carrés contre un bataillon entier et le tenir. Il est intéressant de savoir que les Américains ont formé leur béret vert au Vietnam selon ce manuel, l'Institut militaire des Romains. Il est dit que chaque homme était une machine de guerre. Ils portaient entre 3 et 5 armes chacun. Ils utilisaient même la guerre psychologique. Ils avaient des cas sur lesquels ils plaçaient des plumes noires et violettes très hautes. C'est une guerre psychologique de 30 cm pour qu'à la distance, on les voit. Et déjà, ils avaient l'air plus grands que vrai, juste pour faire peur à l'ennemi. Donc, 16 de ces soldats romains ont été placés devant le tombeau. Cinquième précaution, un sceau fut placé sur le sépulcre. Matthieu 27, 66 dit qu'ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la garde, scellé le tombeau. Vigitus dit que ce sceau ne pouvait être placé que dans la présence de la garde romaine. Le sceau était fait de 2 pièces de cuir brut avec 4 plaques de glaise ou d'argile sur les côtés, une grosse plaque au centre, donc une sorte de croix avec des plaques un peu partout. Et dans la plaque du centre, il fixait le sceau romain. Alors, le sceau romain était fixé par la garde romaine. Il devait avant tout vérifier ce qu'ils étaient appelés à protéger, puis ils apposaient le sceau. Alors, le sceau, il servait à quoi? C'était pas pour rendre plus difficile le fait de voler quelque chose. Non. Non, c'était plutôt un dispositif d'authentification. Lorsque la garde romaine mettait le sceau sur quelque chose, ils mettaient, écoutez bien, leur vie en jeu. Ils affirmaient en premier lieu que ce qu'ils devaient protéger était bien là, et ils craignaient plus que toute autre chose ce sceau rompu. Leur vie était maintenant, quoi qu'il arrive, ce sceau reste non rompu. Alors, comment est-ce que cette garde de nuit se passait? Il y avait donc 16 hommes divisés en 4 unités de 4 hommes. 4 hommes étaient réveillés en tout temps devant ce qu'ils devaient protéger. Les autres, 12, dormaient dans un demi-cercle autour de ce qu'ils protégeaient. Chaque 4 heures, un groupe de 4 hommes était réveillé pour prendre la garde, pour permettre aux 4 qui venaient de faire la garde de dormir à leur tour. Donc ils faisaient une rotation pour une raison très précise. Dans le cas où ils seraient menacés en tout temps, ces 16 hommes seraient reposés et prêts à se battre. Donc il y a 16 hommes qui sont placés devant le sépulcre qui avait été scellé par le sceau romain. Il est clair que quelque chose s'est passé ce jour-là. Une chose s'est passée dans l'histoire. Quelque chose est arrivé au tombeau dont le monde ne s'est pas encore remis. Quelque chose est arrivé ce jour-là qui a fait que 12 hommes, des Juifs, les disciples, 11 on peut dire, sont Judas, ont eu leur vie bouleversée. 10 d'eux sont morts martyrs et un est mort en exil. Judas s'était suicidé. Donc 11 disciples, 10 sont morts martyrisés, un exilé. Pourquoi? Ils sont morts pourquoi? Pour une chose. Ils ont affirmé et affirmé et affirmé encore et réaffirmé encore que Jésus était ressuscité des morts. Lisez le livre des Actes. Ils ont affirmé que pendant 40 jours, Jésus leur a apparu et qu'il a donné des preuves, Actes 1-3, Et cette phrase est utilisée dans les cours de justice à l'époque pour décrire des preuves irréfutables. Prenez Thomas. Thomas, par exemple, c'était le douteur. On l'appelle le Thomas le douteur. Il a dit, je ne croirai pas à moins que je voie Jésus ressuscité, que je puisse mettre mon doigt dans les trous qui l'ont percé. Eh bien, mes amis, Thomas est mort martyr, ayant affirmé clair et net qu'il avait vu Jésus ressuscité. Un des plus grands sceptiques est devenu un des plus grands martyrs. Comment expliquer ça? Alors, il y a beaucoup de théories sur les fraudes possibles de la résurrection. Il faut les lire. C'est intéressant de les lire. On n'a pas le temps de les réviser aujourd'hui, peut-être un autre jour. On peut dire ceci, dans les théories qui existent, si elles sont en fait vraies, elles demandent un plus grand miracle que la résurrection elle-même. Pour que ces théories marchent, elles doivent changer l'évidence historique. Ils doivent changer le texte du livre le plus fiable historiquement de tous les temps. Ça, c'est un problème. Ok, alors voyons ce qui s'est passé ce jour-là, d'accord? Deuxième grand point, la résurrection elle-même. La résurrection elle-même. Matthieu 28, hein, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie et Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Voici, il y eut un grand tremblement de terre. Premièrement, un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Regardez, son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Et verset 4, les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Alors, allez voir. 16 hommes, soldats romains, armés jusqu'aux dents, avec la peine de mort, comment dire, qui les attend, tremblent, deviennent comme morts. Mes amis, il a fallu un sacré tremblement de terre pour ça. C'est vrai. Deux. C'est les constatations, hein. C'est ce qu'on est en train de voir, ce qui s'est passé. Tremblement de terre. Deux, l'ange roula la pierre et s'assit dessus. Verset 2, voici, il y a un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre et s'assit dessus. Donc, il est dit qu'il y a un ange qui est apparu, qui a roulé la pierre et s'assit dessus. C'est quand même marrant, vous ne trouvez pas? C'est intéressant. Alors, pourquoi est-ce qu'il a roulé la pierre, l'ange? Pour que Jésus puisse sortir? Non. C'est pas pour que Jésus puisse sortir. Non, lui, il pouvait traverser les murs. Ça, on l'a vu dans Jean 20, avec Thomas. Non, il a roulé la pierre pour que nous puissions aller voir à l'intérieur ce qu'il y avait. Trois. La garde tremblait de peur. On l'a lu au verset 3. Son aspect était comme éclair et son vêtement blanc comme la neige. Verset 4, les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Alors, dans tous les textes parallèles, il est indiqué que certains sont restés au sépulcre pendant que d'autres sont allés voir le haut sacrificateur. Regardez le verset 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après être rassemblés avec les anciens à avoir conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant « Dites, ses disciples sont venus la nuit le dérober pendant que nous dormions ». Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de la peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Donc ils sont allés voir le haut sacrificateur. Parce qu'ils savaient que celui-ci avait une grande influence chez les Romains. Ils savaient aussi que c'était la seule manière possible de sauver leur propre peau. Donc ils ont été soudoyés. Alors certains disent, ouais, mais si c'était la police du temple, il n'y aurait pas eu besoin de les soudoyer. Bien que le texte ne le dit pas explicitement, on peut supposer que quelque chose s'est bien passé entre-temps, que le haut sacrificateur a envoyé un comité au sépulcre pour voir de leurs propres yeux ce qui s'est passé. Ils ne vont pas tout simplement croire ces gardes qui vont leur dire « Écoutez, le corps a été volé. » Un ange est apparu. Il y a un tremblement de terre. Ils vont dire « Mais attendez voir, vous avez des problèmes psychologiques. » Ils ne vont pas juste croire ces 16 soldats romains. « Oui, écoutez, il y a eu un ange là, et puis... Non. Vous pouvez être assuré qu'ils sont allés voir eux-mêmes. Ils sont revenus et ils ont conclu que quelque chose de très étrange était arrivé au sépulcre. Tellement qu'ils ont été convaincus que ces hommes apparemment disaient la vérité. Apparemment, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas en bonne conscience tenir l'unité romaine, les 16 hommes, pour responsables d'avoir failli leur tâche. S'ils avaient pu faire cela, alors ils n'auraient pas eu le besoin de les soudoyer. S'ils avaient pu tout simplement prouver que la garde romaine était incompétente, leur cas aurait été gagné, mais ils ne pouvaient pas le prouver. Ils savaient que la garde romaine n'était pas incompétente, elle était compétente. Donc ils se sont dit, il y a vraiment eu un truc, donc il faut les soudoyer. Et puis le texte nous dit qu'ils leur ont dit, si vous dites que les disciples sont venus la nuit dérober le corps pendant que nous dormions, que cela s'est répandu, si cela arrive aux oreilles du gouverneur romain, comme quoi Jésus est ressuscité des morts, nous vous éviterons la mort. Je continue. Troisième point sur la résurrection. Ça c'est le troisième grand point. Donc ça c'est ce qui s'est passé à la résurrection. Alors, troisième point, la constatation. Alors, est-ce que les disciples ont volé le corps ou pas ? Alors, avant de conclure ça, il y a plusieurs choses qu'il faut constater. C'est très intéressant. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'on pouvait voir ? Numéro 1, la rupture du sceau romain. L'ange a roulé la pierre. Le sceau a été brisé. Et lorsque le sceau fut brisé, le FBI ou la CIA de tous les services romains étaient mis en œuvre pour retrouver cet homme qui a brisé le sceau. Et lorsqu'ils l'ont trouvé, vous savez ce que c'était ? C'était automatiquement la crucifixion à l'envers. Les disciples savaient. C'est pour ça qu'ils sont allés se cacher dans leur propre maison. Pierre avait nié Jésus 3 fois auparavant, vous vous rappelez ? Vous croyez que c'est vraiment lui qui allait essayer de voler le corps de Jésus et briser le sceau romain ? Un peu douteux. Deuxième chose qu'ils ont vue, pas juste que le sceau romain a été brisé, la pierre était roulée. C'est très intéressant. Là, c'est le détail, je crois, qui m'excite le plus. Chaque fois que quelqu'un s'est approché du sépulcre après la résurrection, il y avait quelque chose d'étonnant à remarquer que personne ne pouvait nier. C'est le positionnement de la pierre. 4 affirmations étonnantes sont présentes dans le grec qui sont perdus lorsqu'on le lit en français. Lorsqu'on regarde le positionnement exact de la pierre, Matthieu nous dit que la pierre fut roulée de l'ouverture du sépulcre. Ok. La pierre fut roulée, l'ange assis dessus, c'est tout ce qu'on sait. Marc nous dit que la pierre fut non seulement roulée de l'ouverture du sépulcre, mais du sépulcre lui-même. Donc on peut imaginer la pierre devant le sépulcre, on pourrait imaginer que la pierre était roulée juste assez pour laisser quelqu'un rentrer. Mais Marc suggère que la pierre était loin du sépulcre quelque part. Luc nous dit que la pierre fut roulée du sépulcre, le grec l'implique, en haut d'une pente, d'une inclinaison. Donc, pente, pierre, en haut d'une pente. Et Jean, dans son évangile au chapitre 20, utilise un mot particulier, aéro, qui veut dire porter quelque chose, l'amener loin de l'endroit où cette chose se trouve. Alors attendez, si les disciples étaient venus sur la pointe des pieds pour voler le corps de Jésus avec la garde romaine, d'accord ? Pourquoi est-ce qu'ils ont pris cette pierre ? Ils l'ont soulevé, ils l'ont déplacé loin du tombeau, en haut d'une inclinaison assez loin. Ah, bien sûr, pendant que les Romains dormaient, d'accord. Mais comment expliquer que la garde romaine n'aurait pas entendu ça? C'est quand même, c'est incroyable. Non, le positionnement de cette pierre, mes amis, est quelque chose qu'il a fallu expliquer. Et voilà pourquoi il est probable que le haut sacrificateur ait envoyé un comité pour voir d'eux-mêmes ce qui s'est passé. Et là, ils ont vu cette pierre, ils se sont dit, là, il y a un truc. Il y a quelque chose de très étrange qui s'est passé là-bas. Et puis, il faut expliquer le custodias, la garde romaine. Il est absolument impossible d'affirmer que la garde romaine de 16 hommes s'est endormie. Il faut relire Publius. Vous vous rappelez ce gars? Son Digeste 49. Il a écrit 18 choses pour lesquelles une garde romaine était mise à mort. Si une garde échouait dans son devoir et s'endormait, elle était immédiatement exécutée. Et chaque fois qu'un garde échouait, au moins une personne devait être mise à mort. Si on ne savait pas qui était le coupable principal, on tirait au sort. Et lorsqu'ils exécutaient la personne, ils le brûlaient vivant par le feu, commençaient avec ses propres habits. Puis ils faisaient retentir des trompettes dans la région pour que les gens prennent conscience de la discipline sévère de l'armée romaine. Pas un de ces hommes se serait endormi ce soir, hors les 4 heures où ils étaient supposés dormir. Et s'ils avaient vu un garde dormir, les 15 autres l'auraient tapé jusqu'à qu'il se réveille. Pas trop fort, sinon il s'évanouit, d'accord? Mais ils auraient tout fait pour que personne ne s'endorme. C'était le but de l'exercice ici. Quelles étaient les autres offenses pour lesquelles on donnait la peine de mort à la garde romaine? De parler avec l'ennemi, la désertion. Si vous perdiez un bras, on vous exécutait. Pour ne pas perdre de bras hein, quand vous battez, ça c'est très important. La désobéissance pendant une bataille, le refus de protéger un officier, de quitter son poste, le meurtre, insulte à un général, peine de mort. Oh. De blesser un de ses propres soldats, de se mutiler soi-même, de quitter la garde de nuit, de briser la lance d'un centurion. Et si un homme échouait à son devoir en s'endormant pendant la garde. Quatrième chose, la tombe n'était pas vide. Vous vous rappelez, les femmes sont arrivées, elles ont paniqué. Ensuite, elles sont allées parler avec Pierre et Jean. Pierre et Jean sont revenus en courant. Il est dit que Jean est arrivé en premier, qu'il s'est baissé pour entrer dans le tombeau. Et une fois arrivé, il a vu où on avait placé le corps de Jésus. Et là, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu? McDowell, dans son livre, il est convaincu que ce qu'il a vu, c'était une coquille dure et vide. Parce que cette pâte gommeuse qu'on mettait autour de ces bandes, en 3 jours, surtout dans la sécheresse du Moyen-Orient, avait séché. Et Jésus, pff, il est ressuscité. Qu'est-ce qui restait? La coquille. C'est ce qu'il dit. C'est ce que lui pense. C'est pour ça que lorsque Jean et Pierre ont vu, il est dit qu'ils ont cru. Incroyable. Incroyable. Vous dites, mais c'est peut-être les Romains ou les Juifs qui ont pris le corps. Alors cette thèse est intéressante, à moins que vous y réfléchiez un petit peu. Pourquoi feraient-ils la chose qui leur créerait encore plus de problèmes? Attends. Si tu veux montrer que la résurrection est impossible, pourquoi tu vas voler le corps? C'est pas logique. Au contraire, si tu veux déprouver la résurrection, tu prends le corps mort et tu le montres à tout le monde. Il est aussi intéressant de noter que les disciples, après la résurrection de Jésus, sont allés à l'endroit le plus difficile sur la face de la terre à l'époque, c'est Jérusalem, 15 minutes à pied. N'importe qui aurait pu prendre le corps et le montrer à Jérusalem. Et si les Juifs ou les Romains avaient volé le corps, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas montré? Ils auraient dû faire une parade du corps, comme aujourd'hui, quand il y a un enterrement en Palestine, hein, on parade le corps dans les rues. Voilà ce qu'ils auraient dû faire. Et là, ça aurait été la fin du christianisme. Parce que Jésus avait prédit, dans 3 jours, je ressusciterai. Le christianisme est une foi dans le corps ressuscité de Jésus. Révèle le corps, c'est fini pour le christianisme. Non ? Qu'est-ce qu'ils ont fait à la place ? Les Romains et les Juifs, ils ont arrêté les disciples, ils les ont battus, ils les ont fouettés, puis ils les ont menacés de mort en leur disant « Si vous n'arrêtez pas de dire cela, nous vous mettrons à mort. Arrêtez de proclamer la résurrection !» Acte 5. Montrer le corps, c'était fini. Et ça aurait fait du christianisme une moquerie absolue. Alors quelqu'un dira « Ouais, non, 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 mais il y a un autre problème, les femmes sont allées au mauvais tombeau. Ils se sont trompés de tombeau. » Ah d'accord, bah alors dans ce cas-là, il faut dire que les hommes sont aussi se sont trompés de tombeau. Ce qui veut dire que les juifs aussi, pour aller vérifier, sont allés au mauvais tombeau. Et les romains aussi se sont trompés de tombeau. Ah oui, et l'ange aussi s'est trompé de tombeau. Ah oui, ah, c'est un problème, l'ange il s'est pas trompé de tombeau, mes amis. Non, 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 non. Écoutez, la seule solution viable et juste, c'est ce que c'est ? C'est que Jésus est ressuscité des morts, exactement comme il l'avait prédit. Et s'il n'est pas ressuscité des morts, Paul l'a dit, votre foi est vaine. Vous savez pourquoi les vies chrétiennes sont transformées ? Parce que Jésus est ressuscité. Parce que Jésus est ressuscité. Ils deviennent complètement différents de leur vie antérieure parce qu'il est ressuscité, il vient vivre en eux et leur donne une puissance du Saint-Esprit et ils ont une vie maintenant surnaturelle. Alors quelles sont les implications de la résurrection de Jésus ? Écoutez, si c'est vrai tout ça, je ne doute pas, je le dis comme ça pour l'argumentation, si Jésus est ressuscité, ça implique quoi ? Numéro un, il est vraiment le Fils de Dieu. Il est vraiment le Fils de Dieu. Deuxièmement, écoutez bien, si Jésus est ressuscité, le pardon est vraiment possible. Son sacrifice sur la croix a résolu une fois pour toutes le problème du péché. Et en ressuscitant les morts, il a vaincu la mort, mais le péché qui provoque la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mes amis, Christ peut vraiment pardonner notre péché. C'est vraiment vrai. J'espère que vous reviendrez dimanche prochain. C'est Fabien qui va prêcher sur le pardon. Venez. Sur le pardon. Christ peut vraiment nous pardonner, qui veut dire que nous pouvons pardonner les autres aussi. Les implications sont extraordinaires. Troisième application. Ah, si Christ est ressuscité, cela confirme que nous devons aussi être ressuscités des morts. Une des choses les plus uniques du christianisme, ce n'est pas que la résurrection de Jésus, mais c'est la résurrection de ses disciples. Cela sépare le christianisme de toutes les autres religions du monde. Parce qu'il est ressuscité des morts, nous pouvons avoir la confiance que nous aussi le serons. Jean 11, 25. Écoutez, Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Je répète. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, dit Jésus, vivra même s'il meurt. » Waouh, qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Oui, nous allons mourir physiquement, mais si tu crois au ressuscité, tu seras aussi ressuscité à la fin. Amen ?
Amen.
Et quatrièmement, cela confirme qu'il va revenir. Attendez voir, écoutez, c'est logique. Si Jésus est ressuscité, ça veut dire qu'il est vivant aujourd'hui. Il est où ? Il est là-haut. Écoutez ce qu'il a dit, c'est trop génial. Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Verset 1. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous le soyez aussi. Est-ce que je peux encore entendre un amen? Mais ouais, il est là-haut, il va revenir pour nous chercher. C'est ce qu'il a dit. Donc, sa résurrection confirme qu'il va revenir. Il a prédit qu'il allait ressusciter, il est ressuscité. Il prédit qu'il va revenir, il va revenir. Je ne sais pas quand. Ça, je ne sais pas quand. Mais ce n'est pas grave, je suis prêt. Et toi, tu es prêt? S'il revenait aujourd'hui, honnêtement, t'es prêt? Tu pars ou tu restes? Vraiment. S'il revenait aujourd'hui, le ciel, tu es pardonné? Ou son jugement? Mes amis, voilà l'espérance du chrétien. Voilà pourquoi la résurrection est tellement importante. Sans résurrection, il n'y a pas de christianisme. Aujourd'hui, on a la Sainte Cène. Et j'aimerais nous préparer pour la Sainte Cène. Il est ressuscité après être mort. Après être mort. Vous vous rappelez, ils étaient dans la chambre haute. Dans Matthieu 26, il est dit, pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et donna aux disciples, disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Est-ce que vous saviez que dans la Sainte Cène, il y a la résurrection aussi? Le prochain verset. « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau, avec vous, dans le royaume de mon Père. » C'est excellent. Ça, c'est avant sa mort et sa résurrection. Il dit, allez voir les gars, on va reboire, là-haut. Je vous précède, je meurs, je ressuscite, et vous me suivrez, et ce sera la fête là-haut. C'est vraiment ce qu'il dit. Donc, la Sainte Cène aujourd'hui, oui, nous allons célébrer sa mort, il fallait qu'il meure, avec la perspective de sa résurrection à l'avenir. C'est incroyable. Tout est lié à la résurrection.